Plusieurs d'entre vous allez vous en rappeler des circonstances, en fait, du meurtre de Daphné Huard-Boudreau, 22 mars 2017. Elle était retournée chez elle chercher ses effets personnels. Vous vous rappelez, dans son appartement au Mont-Saint-Hilaire, elle avait rompu avec son ami, son petit ami Anthony Pratt-Lops. Et elle se sentait en danger. Vous vous rappelez, elle avait demandé l'intervention des policiers quelques heures avant de se rendre, de retourner dans son appartement. Parce que justement, son ex avait un comportement, elle sentait là, qu'elle pourrait être en danger. Et elle est retournée chez elle, il l'attendait, et puis il l'a tuée. Et les policiers, d'ailleurs, l'ont cueillie à ce moment-là, à l'appartement. Alors, on a le papa de Daphné Huard-Boudreau qui est avec nous. Éric Boudreau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Je vous trouve très courageux. Et l'accompagne Nancy Roy, qui est directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Madame Roy, bonjour.
Bonjour.
Éric Boudreau, d'abord, parlez-nous un petit peu des moments que vous avez vécus dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi le décès de votre fille.
Ben, premièrement, le 22 mars, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel de Daphné pour me dire que, elle s'en allait à son appartement accueillir ses effets personnels. Qu'est-ce qui est arrivé?
Donc, elle vous a appelé quand elle s'en allait, elle était en chemin?
Oui, elle, avant de partir, parce qu'elle m'a dit, là, il m'a volé mon appareil, mon cellulaire. J'ai dit, on va appeler la police, on va faire quelque chose. Elle avait même appelé la police pour justement avoir de l'aide, pour pas aller se présenter à l'appartement seule. Puis, à partir de ce moment-là, moi, j'avais ma conjointe qui la suivait pour aller à l'appartement avec elle, mais on n'avait aucun doute de savoir que ce personnage-là, il allait encore être présent dans l'appartement, parce que moi, il m'avait appelé, puis il m'avait dit, là, je suis rendu à Québec, je m'en vais chez mes parents. Elle peut y aller, il n'y aura pas personne.
Il lui a tendu un piège.
Exactement. Il n'y a pas plus piège que ça.
Il faut rappeler qu'il a été accusé de meurtre. En fait, il est accusé de meurtre prémédité. Et le procès, d'ailleurs, doit débuter, ça se peut-tu, l'année prochaine?
Avril 2019.
Et syncope.
Ouais.
Ça doit être dur pour vous, non?
Bien, ça nous donne le temps de récupérer un petit peu avant le procès, parce qu'on le sait que le procès, à côtoyer du monde qui ont vécu le procès, c'est très exigeant. L'important pour nous, c'est que ce personnage-là soit derrière les barreaux et que la société soit protégée. En ce moment, il est incarcéré, donc il ne fera plus de mal à une mouche. Là.
Je vous écoute parler. Là. Ça va faire un an le 22 mars prochain, là. C'est ça? Là.
Oui.
Puis je vous trouve remarquablement en contrôle. Je ne sais pas si être dans votre situation, je serais capable d'en parler comme vous le faites présentement. Comment on arrive à être capable d'en parler comme vous le faites sans avoir, mettons, des moments d'émotion?
Ah, j'en ai des moments d'émotion, c'est juste que j'essaie de les contrôler, puis j'en ai tellement parlé. Je me rattache au fait que si je suis capable d'aider du monde, on pourrait éviter juste une situation comme ça. Pour moi, c'est une victoire. Puis oui, ça me fait du bien d'en parler. Puis l'énergie est là pour en parler. Il faut que les choses changent, que ce soit au niveau de la police, au niveau de l'IVAC, au niveau des retours au travail. Il y a un beau guide qui est sorti pour les retours au travail. C'est important.
On va en parler.
C'est ça.
Peux-tu vous poser une question sur les circonstances?
Oui.
Ça se fait-tu?
Oui, oui.
Parce qu'elle était accompagnée des policiers, en fait, d'une policière, si je me rappelle bien. Là, c'est ce qui avait couru dans le temps. Si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, dites-moi, regardez, M. Drainville, ça s'en va à procès, j'aime mieux pas en parler. Mais le souvenir que j'ai, c'est qu'elle était avec un policier, ou il me semble que c'était une policière, qui est rentrée par après. En fait, elle était avec elle, mais le temps qu'elle aille stationner l'auto... Daphné était entrée dans l'appartement et ça lui a laissé le temps de l'agresser puis de la tuer. Est-ce que c'est exact, ça?
Bien, les versions ont changé beaucoup. Une chose est sûre, puis je peux pas parler de qu'est-ce que je sais pas, mais la seule chose que je suis convaincu, c'est que Daphné nous avait dit « De toute façon, on sera pas tout seul à l'appartement. La police veut pas qu'on y aille seul. » À partir de là, c'est ce qu'on a su, c'est qu'elle était rentrée avant, puis la policière... il y a eu plusieurs versions. Elle s'est trompée d'adresse. Daphné, elle était trop vite.
Ça reste encore à clarifier au moment du procès, c'est ça?
Pas au moment du procès, mais on attend l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes et du coroner. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une réponse.
Et ça, c'est toujours en cours?
C'est toujours en cours, puis ça peut prendre du temps.
Là, vous avez recommencé à travailler. Vous êtes arrêté pendant combien de temps après le meurtre de votre fille?
J'ai arrêté pendant 9 mois.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis représentant syndical.
OK. Dans quel contexte? Une entreprise?
Non, pour le syndicat Unifor.
OK. Dans le secteur privé?
Au secteur privé, c'est ça. J'ai été en arrêt pendant 9 mois.
Avez-vous eu une dépression pendant ces 9 mois-là? Est-ce que vous êtes tombé...
Oui? Ben, je dirais même plus un choc post-traumatique. Quand je lis les effets, justement, je regarde le guide, il explique c'est quoi un choc post-traumatique. C'est là qu'on se rend compte qu'on a tous les symptômes d'un choc post-traumatique. Là. On vit de l'isolement, on s'isole.
Est-ce qu'on a des idées noires?
Ah, c'est sûr et certain. On y pense d'aller voir notre fille, là. Sauf qu'on a d'autres, j'ai d'autres enfants. Les idées noires, on les a, mais ça va pas. Pour ma part, ça n'a pas été si loin que ça, là.
Mais vous dites, on y pense à aller voir notre fille. Ça me donne des frissons, ça.
Ah, c'est certain, là. Quand on est en choc post-traumatique puis en dépression majeure, bien, c'est sûr que j'y regardais les poteaux quand je passais à côté en voiture.
Ça, c'est dans les semaines qui suivent?
Oui. Il n'y a jamais eu de tentative ou ça n'a jamais été plus loin, sauf que c'est la solution qui est facile, là.
La maman, elle, comment elle a vécu ça?
La maman est encore en arrêt de travail. Elle l'a vécu très difficilement aussi, puis elle vit encore très difficilement.
Vous êtes ensemble?
Non. Non. Elle est en arrêt de travail encore, puis le guide aussi tombe à point pour elle. Là.
Est-ce que vous avez d'autres enfants?
Oui, j'ai 2 autres enfants. Un petit garçon de 9 ans et une fille de 15 ans.
Eux autres, comment ils ont vécu ça?
Très difficile aussi. Mon petit gars, je pense que... Ça va bien. Et à l'école,
petit,
ça va
le
bien.
Le petit, c'est celui qui a 9 ans?
Qui a 9 ans, oui. Ils sont forts à cet âge-là. C'est vraiment étonnant. On s'inspire d'eux autres.
Ça vous a aidé?
Oui, ça m'a aidé beaucoup parce que je vous dirais que c'est pas mal eux autres qui venaient nous consoler puis qui venaient nous réconforter.
Wow.
Oui.
Puis c'est une fille que vous avez de 15 ans, c'est bien
ouais,
ça?
Puis
comment elle doit s'ennuyer de sa sœur, non? C'était sa grande sœur.
Oui, mais il n'en parle pas beaucoup. On garde tout ça pas mal pour nous autres. C'est rare qu'on se parle, qu'on dise « on s'ennuie-tu hein? ». On le pense tellement souvent qu'on le dit plus.
Mais vous disiez tout à l'heure, ça vous a fait du bien d'en parler. Le fait que les enfants n'en parlent pas, est-ce que c'est bon signe, ça?
Ben c'est bon signe. On a consulté. On veut pas laisser ça aller non plus. On a consulté avec eux autres pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de caché en arrière de tout ça. Mais tout semble bien aller. Mais de toute façon, on a l'œil ouvert et on fait un suivi constant, là.
C'est ça, hein?
Ben oui.
Vous êtes très vigilant, hein?
Oui.
Et là, donc, vous avez décidé de participer à la rédaction, dans le fond, de ce livre, Le guide du retour au travail après un drame. Et c'est pour ça que, Mme Roy, vous êtes ici, la directrice générale donc, de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. En résumé, là, votre guide du retour au travail pour les personnes qui ont vécu un drame, ça dit quoi?
C'est le premier guide au Canada sur le retour au travail pour des gens qui vivent un drame. Donc, imaginez le retour à la vie normale, c'est impossible. Fait que donc, imaginez un retour au travail, c'est presque impossible. Et à côtoyer nos familles, on a réalisé au fil des ans que ces gens-là laissaient leur travail, se réorientaient dans d'autres domaines ou étaient carrément en dépression, ne pouvaient pas retourner au travail. Fait qu'on on a réuni des experts, l'hôpital Douglas, la maison Montbourquette, qui sont des spécialistes en deuil, pour outiller les travailleurs, outiller les employeurs et outiller les syndicats à accueillir favorablement ces personnes-là qui vivent un drame. Vous savez, on perd un bras ou on devient inapte physiquement. Souvent, la CSST va déployer des mesures pour réintégrer ces travailleurs-là. Malheureusement, ceux qui sont victimes d'un acte criminel, premièrement, les parents sont à peine reconnues comme victimes, sont des proches de victimes, fait qu'ils n'ont pas le droit à des mesures de réadaptation. Fait que ce qu'on a fait dans ce guide-là, c'est qu'on fait des recommandations aussi législatives au gouvernement pour dire, ben, outiller ces personnes-là, donnez-leur les moyens pour réintégrer un milieu de travail avec leurs limitations qui sont psychologiques. C'est extrêmement difficile. Souvent, l'isolement est pénible à vivre. Les collègues de travail savent pas comment accueillir.
Ben, je saurais pas, moi non plus.
La bienveillance. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Donc,
je saurais pas quoi faire avec Éric s'il était mon confrère de travail, parce que je me dirais, est-ce que je dois lui en parler? Parce qu'il nous dit, c'est bon que j'en parle. Mais à un moment donné, tu te dis, il doit avoir hâte qu'on y parle d'autre chose. Il doit avoir hâte qu'on le voit à nouveau d'une certaine façon. De la même manière qu'il était avant le drame.
Je pense que c'est d'être à l'écoute de nos collègues de travail. Et le guide vient donner des outils. Mais c'est aussi pour les employeurs. Comment on réintègre un travailleur? Est-ce qu'on peut penser à un horaire variable, à une affectation temporaire, un retour progressif?
Toutes ces mesures-là doivent
être mises en place, parce que sinon, on se retrouve avec des travailleurs qui partent en dépression de façon répétitive.
Oui, c'est ça. Si tu le forces à revenir trop vite, tu pèles, te pars en avant, le deuil, il faut qu'il le vive. Donc, aussi bien le vivre correctement, lui laisser le temps de bien le vivre. Et lorsqu'elle va revenir, cette personne-là, ben, elle va peut-être être justement plus en contrôle comme l'est Éric aujourd'hui.
Ou sinon, de peut-être penser à un emploi de réintégrer ces gens-là dans d'autres emplois aussi.
Puis graduellement, n'est-ce pas?
Oui.
Vous êtes rentré au travail graduellement, Éric, non?
Oui, exactement. C'est ma première semaine à temps plein.
C'est votre première semaine cette semaine?
À temps plein.
Bravo.
Ouais.
Ben, je vous regarde aller, je vous écoute, puis je pense que vous étiez prête là, pour une semaine à temps plein.
Ben, j'étais surtout plus prêt à rester chez nous, puis à tourner en rond, puis à m'écouter. Là. C'est ça qui vient très difficile. Là. On s'isole. J'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin des défis pour penser justement à d'autres choses.
Je vous trouve fort. Je vous trouve vraiment fort. Vraiment.
Ben, merci.
Je pense que vous êtes probablement, pour les gens qui nous écoutent, en tout cas certainement certaines personnes, puis pour moi, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Parce que vous êtes en train de faire la preuve qu'il y a moyen, il y a une vie après un drame comme celui-là. Même si c'est plus jamais la même vie, il y a une vie quand même, n'est-ce pas?
Bon, on devient différent, puis on devient plus fort, veut pas. Là. C'est long avant de devenir plus fort, mais on réussit à aller chercher qu'est-ce qui nous manquait dans la vie, dans le fond. Là.
Répétez-moi ça.
On va chercher qu'est-ce qui nous manquait dans la vie pour devenir un être humain. Comment je pourrais dire?
Plus complet?
Plus complet, oui, c'est ça.
Vraiment?
Ben oui,
Vous dites qu'on, d'une certaine façon, un drame comme celui-là nous oblige, d'une certaine façon, à nous surpasser, à devenir une meilleure personne?
Mais
c'est ça que vous dites?
Ben oui, mais c'est quand dans la vie qu'on prend 9 mois pour penser à nous, puis... travailler sur nous-mêmes pour être capable de vivre au travers de tout ça, puis vivre avec ça sur les épaules. On a travaillé pendant 9 mois sur nous. On peut pas appeler ça une belle occasion, là, mais c'est ce qu'on a fait quand même. Puis on découvre beaucoup de choses sur nous. Là,
Je vais vous poser une dernière question.
Ouais.
Est-ce que vous avez été capable, pour retrouver une espèce de sérénité comme celle que vous avez, comme celle que vous avez, comme celle que vous montrez, est-ce qu'il faut donner un sens à la mort de sa fille? Est-ce qu'il faut comme...
J'imagine que oui, mais pour l'instant, le sens, là, je suis peut-être pas rendu à trouver un sens. Là. Je me l'ai comme fait voler. Mais est-ce qu'il y a un sens à ça? J'imagine que ça va aider beaucoup de monde. Si ça a pu éviter un drame, ben tant mieux. C'est peut-être c'était peut-être son destin, je sais pas.
Éric Boudreau, papa de Daphné Huard Boudreau, merci. Je vous trouve très généreux. Bonne chance avec le procès.
Merci.
Et Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, qui a piloté donc ce guide du retour au travail après un drame. J'imagine que les gens peuvent le trouver sur votre site Internet.
Sur notre site Internet, peuvent demander aussi des copies. Plus il va être distribué, plus les gens vont être informés, mieux ça sera, je pense, pour le retour au travail.
Merci à vous deux.
Merci.
Au retour, on va faire le point sur... on ne sait pas encore. Bon, écoutez, ça s'appelle la radio en direct. Ça va être bon. Il faut juste être patient. Revenez-nous.